Histoire naturelle, suite 2. Le chat. Le mien ne mange pas les souris. Il n'aime pas ça. Il n'en attrape que pour jouer avec. Quand il a bien joué, il lui fait grâce de la vie et il va rêver ailleurs, l'innocent, assis dans la boucle de sa queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à cause des griffes, la souris est morte. 2. On lui dit « Prends les souris et laisse les oiseaux !» C'est bien subtil, et le chat le plus fin quelquefois se trompe. La vache. Là de chercher, on a fini par ne pas lui donner de nom. Elle s'appelle simplement la vache, et c'est le nom qui lui va le mieux. D'ailleurs, qu'importe, pourvu qu'elle mange. Or, l'herbe fraîche, le foin sec, les légumes, le grain, et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion, et elle mange de tout, tout le temps, deux fois, puisqu'elle rumine. Dès qu'elle m'a vue, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes, comme un bas blanc. Elle arrive, certaine que j'apporte quelque chose qui se mange. Et l'admirant chaque fois, je ne peux que lui dire « Tiens, mange !» Mais de ce qu'elle absorbe, elle fait du lait et non pas de la graisse. À heure fixe, elle offre son pis plein et carré. Elle ne retient pas le lait. Il y a des vaches qui le retiennent. Généreusement, par ses quatre treillons élastiques, à peine pressés, elle vide sa fontaine. Elle ne remue ni le pied ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle s'amuse à lécher le dos de la servante. Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Il est rare qu'elle beugle de regret au souvenir vague de son dernier veau, mais elle aime les visites, accueillante avec ses cornes relevées sur le front et ses lèvres affriandées d'où pendent un fil d'eau et un brin d'herbe. Les hommes, qui ne craignent rien, flattent son ventre débordant. Les femmes, étonnées qu'une si grosse bête soit si douce, ne se défient plus que de ses caresses et font des rêves de bonheur. Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu parce qu'elle s'approche de plaisir et la bonne grosse bête se laisse faire jusqu'à ce que j'aie mis le pied dans sa bouse. La mort de Brunette. Philippe, qui me réveille, me dit qu'il s'est levé la nuit pour l'écouter et qu'elle avait le souffle calme. Mais depuis ce matin, elle l'inquiète. Il lui donne du foin sec et elle le laisse. Il offre un peu d'herbe fraîche et Brunette, d'ordinaire si friande, y touche à peine. Elle ne regarde plus son veau et supporte mal ses coups de nez quand il se dresse sur ses pattes rigides pour téter. Philippe les sépare et attache le veau loin de la mer. Brunette n'a pas l'air de s'en apercevoir. L'inquiétude de Philippe nous gagne tous. Les enfants même veulent se lever. Le vétérinaire arrive, examine Brunette et la fait sortir de l'écurie. Elle se cogne au mur et elle bute contre le pas de la porte. Elle tomberait, il faut la rentrer. « Elle est bien malade, » dit le vétérinaire. Nous n'osons pas lui demander ce qu'elle a. Il craint une fièvre de lait, souvent fatale, surtout aux bonnes laitières, et se rappelant une à une celle qu'on croyait perdue et qu'il a sauvée, il écarte avec un pinceau, sur les reins de Brunette, le liquide d'une fiole. « Il agira comme un vésicatoire, » dit-il. « J'en ignore la composition exacte, ça vient de Paris. Si le mal ne gagne pas le cerveau, elle s'en tirera toute seule. Sinon, j'emploierai la méthode de l'eau glacée. Elle étonne les paysans simples, mais je sais à qui je parle. Faites, monsieur. » Brunette, couchée sur la paille, peut encore supporter le poids de sa tête. elle cesse de ruminer. Elle semble retenir sa respiration pour mieux entendre ce qui se passe au fond d'elle. On l'enveloppe d'une couverture de laine parce que les cornes et les oreilles se refroidissent. « Jusqu'à ce que les oreilles tombent, dit Philippe, il y a de l'espoir. » Deux fois, elle essaie en vain de se mettre sur ses jambes. Elle souffle fort, par intervalles de plus en plus espacés. Et voilà qu'elle laisse tomber sa tête sur son flanc gauche. « Ça se gâte !» dit Philippe accroupi et murmurant des douceurs. La tête se relève et se rabat sur le bord de la mangeoire, si pesamment que le choc sourd nous fait faire « Oh !» Nous bordons Brunette de tas de paille pour qu'elle ne s'assomme pas. Elle tend le cou et les pattes. Elle s'allonge de toute sa longueur, comme au pré par les temps orageux. Le vétérinaire se décide à la saigner. Il ne s'approche pas trop. Il est aussi savant qu'un autre, mais il passe pour moins hardi. Au premier coup du marteau de bois, la lancette glisse sur la veine. Après un coup mieux assuré, le sang jaillit dans le seau d'étain, que d'habitude le lait emplit jusqu'au bord. Pour arrêter le jet, le vétérinaire passe dans la veine une épingle d'acier. Puis, du front à la queue de Brunette soulagée, nous appliquons un drap mouillé d'eau du puits et qu'on renouvelle fréquemment parce qu'il s'échauffe vite. Elle ne frissonne même pas. Philippe la tient ferme par les cornes et empêche la tête d'aller battre le flanc gauche. Brunette, comme domptée, ne bouge plus. On ne sait pas si elle va mieux ou si son état s'aggrave. Nous sommes tristes. Mais la tristesse de Philippe est morne, comme celle d'un animal qui en verrait souffrir un autre. Sa femme lui apporte sa soupe du matin qu'il mange sans appétit sur un escabeau et qu'il n'achève pas. « C'est la faim, dit-il. Brunette enfle. Nous doutons d'abord, mais... Philippe a dit vrai. Elle gonfle à vue d'œil et ne se dégonfle pas, comme si l'air entré ne pouvait ressortir. La femme de Philippe demande « Elle est morte ?»«
Tu ne le vois pas ?» dit Philippe durement. Madame Philippe sort dans la cour.
« Ce n'est pas près que j'aille en chercher une autre, » dit Philippe.
« Une quoi ?»«
Une autre brunette. » « Vous irez quand je voudrai, » dis-je d'une voix de maître qui m'étonne. Nous tâchons de nous faire croire que l'accident nous irrite plus qu'il ne nous peine, et déjà nous disons que Brunette est crevée. Mais le soir, j'ai rencontré le sonneur de l'église, et je ne sais pas ce qui m'a retenu de lui dire « Tiens, voilà 100 sous, va sonner le glas de quelqu'un qui est mort dans ma maison. »
Le bœuf. La porte s'ouvre ce matin, comme d'habitude, et Castor quitte, sans buter, l'écurie. Il boit, à lente gorgée, sa part au fond de l'auge et laisse la part de Pollux attarder. Puis, le mufle s'égouttant ainsi que l'arbre après l'averse, il va de bonne volonté, avec ordre et pesanteur, se ranger à sa place ordinaire, sous le joug du chariot. Les cornes liées, la tête immobile, il fronce le ventre, chasse mollement de sa queue les mouches noires et, telle une servante sommeil, le balai à la main, il rumine en attendant Pollux. Mais, par la cour, les domestiques affairés crient et jurent et le chien jappe comme à l'approche d'un étranger. Est-ce le sage Pollux qui, pour la première fois, résiste à l'aiguillon? Tournaille, heurte le flanc de Castor, fume et, quoique attelé, tâche encore de secouer le joug commun? Non, c'est un autre. Castor, dépareillé, arrête ses mâchoires quand il voit, près du sien, cet œil trouble de bœuf qu'il ne reconnaît pas. Au soleil qui se couche, les bœufs traînent par le pré, à pas lents, la herse légère de leur ombre. Le taureau. 1. Le pêcheur à la ligne volante marche d'un pas léger au bord de l'Yonne et fait sautiller sur l'eau sa mouche verte. Les mouches vertes, il les attrape au tronc des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne d'un coup sec et tire d'autorité. Il s'imagine que chaque place nouvelle est la meilleure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et de ce pré passe dans l'autre. Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s'arrête. Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. C'est un taureau fameux, et sa taille étonne les passants sur la route. On l'admire à distance, et s'il ne l'a fait déjà, il pourrait lancer son homme au ciel, ainsi qu'une flèche, avec l'arc de ses cornes. Plus doux qu'un agneau tant qu'il veut, il se met tout à coup en fureur quand ça le prend, et près de lui, on ne sait jamais ce qui arrivera. Le pêcheur l'observe obliquement. « Si je fuis, pense-t-il, le taureau sera sur moi avant que je ne sorte du pré. Si, sans savoir nager, je plonge dans la rivière, je me noie. Si je fais le mort par terre, le taureau, dit-on, me flairera et ne me touchera pas. Est-ce bien sûr ? Et s'il ne s'en va plus, quelle angoisse ! Mieux vaut feindre une indifférence trompeuse. » Et le pêcheur à la ligne volante continue de pêcher, comme si le taureau était absent. Il espère ainsi lui donner le change. Sa nuque cuit sous son chapeau de paille. Il retient ses pieds qui brûlent de courir et les oblige à fouler l'herbe. Il a l'héroïsme de tremper dans l'eau sa mouche verte. D'ailleurs, qui le presse? Le taureau ne s'occupe pas de lui et reste avec les vaches. Il ne s'est mis debout que pour remuer, par lassitude, comme on s'étire. Il tourne au vent du soir sa tête crépue. Il beugle par intervalles, l'œil à demi fermé. Il mugit de langueur et s'écoute mugir. 2. Les femmes le reconnaissent aux poils frisés qu'il a sur le front. 3. Comme il me regarde ! N'aie pas peur, Gloriette, il voit bien que tu as l'air d'une honnête femme. Les mouches d'eau. Il n'y a qu'un chêne au milieu du pré, et les bœufs occupent toute l'ombre de ses feuilles. La tête basse, ils font les cornes au soleil. Ils seraient bien sans les mouches, mais aujourd'hui, vraiment, elles dévorent, ocres et nombreuses, les noires se collent par plaques de suie aux yeux, aux narines, au coin des lèvres même, et les vertes sucent de préférence la dernière écorchure. Quand un bœuf remue son tablier de cuir ou frappe du sabot la terre sèche, le nuage de mouches se déplace avec murmure. On dirait qu'elle fermente. Il fait si chaud que les vieilles femmes sur leurs portes flairent l'orage et déjà elles plaisantent un peu. « Gare au bourdoudou !» disent-elles. Là-bas, un premier coup de lance lumineux perce le ciel, sans bruit. Une goutte de pluie tombe. Les bœufs, avertis, relèvent la tête, se meuvent jusqu'au bord du chêne et soufflent patiemment. Ils le savent. Voici que les bonnes mouches viennent chasser les mauvaises. D'abord rares, une par une, puis serrées, toutes ensemble, elles fondent du ciel déchiqueté sur l'ennemi qui cède peu à peu, s'éclaircit, se disperse. Bientôt, du nez camus à la queue inusable, les bœufs ruisselants ondulent d'aise sous les seins victorieux des mouches d'eau. La jument. C'est la rentrée générale des foins. Les granges se bourrent jusqu'aux tuiles fêtières. Les hommes et les femmes se dépêchent parce que le temps menace et que si la pluie tombait sur le foin coupé,
il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent. On charge l'un tandis que les chevaux ramènent l'autre à la ferme. Il fait déjà nuit, que le va-et-vient dure encore. Une jument mère hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l'appelait et qui a passé la journée au pré sans boire. Elle sent que c'est la fin, qu'elle va le rejoindre, et elle tire du collier comme si elle était seule attelée. Le chariot s'immobilise près du mur de la grange. On dételle, et la jument libre irait d'un trot lourd à la barrière où le poulain tend le nez, si on ne l'arrêtait, parce qu'il faut qu'elle retourne chercher là-bas le dernier chariot. Le cheval. Il n'est pas beau, mon cheval. Il a trop de nœuds et de salières, les côtes plates, une queue de rat et des incisives d'anglaise. Mais il m'attendrit. Je n'en reviens pas qu'il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner. Chaque fois que je l'attelle, je m'attends qu'il me dise « non » d'un signe brusque et d'étale. Point. Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d'aplomb, recule avec docilité entre les brancards. Aussi, je ne lui ménage ni l'avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu'à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre, je le flatte de la main et de la voix, j'éponge ses yeux, je cire ses pieds. Est-ce que ça le touche? On ne sait pas. Il pète. Et c'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche. Au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabot quelque part. Il me fait peur. Il me fait honte. Et il me fait pitié. Est-ce qu'il ne va pas bientôt se réveiller de son demi-sommeil et, prenant d'autorité ma place, me réduire à la sienne? À quoi pense-t-il? Il pète, pète, pète. L'âne. Tout lui est égal. Chaque matin, une voiture, d'un petit pas sec et dru de fonctionnaire, le facteur Jacot, qui distribue au village les commissions faites en ville. Les épices, le pain, la viande de boucherie, quelques journaux, une lettre. Cette tournée finie, Jacot et l'âne travaillent pour leur compte. La voiture sert de charrette. Ils vont ensemble à la vigne, au bois, aux pommes de terre. Ils ramènent tantôt des légumes, tantôt des balais verts, ça ou autre chose, selon le jour. Jacot ne cesse de dire « hu, hu » sans motif, comme il ronflerait. Parfois, l'âne, à caus d'un chardon qu'il flaire ou d'une idée qui le prend, ne marche plus. Jacot lui met un bras autour du cou et pousse. Si l'âne résiste, Jacot lui mord l'oreille. Il mange dans les fossés, le maître une croûte et des oignons, la bête ce qu'elle veut. Ils ne rentrent qu'à la nuit. Leurs ombres passent avec lenteur d'un arbre à l'autre. Subitement, le lac de silence où les choses baignent et dorment déjà se rompt bouleversé. Quelle ménagère tire à cette heure, par un treuil rouillé et criard, des pleins seaux d'eau de son puits. C'est l'âne qui remonte et jette toute sa voix dehors et braie, jusqu'à extinction. Qu'il s'en fiche! Qu'il s'en fiche! 2. Le lapin devenu grand. Le cochon. Grognon, mais familier, comme si nous t'avions gardé ensemble, tu fourres le nez partout, et tu marches autant avec lui qu'avec les pattes. Tu caches sous des oreilles en feuilles de betterave tes petits yeux cassis. Tu es ventru comme une groseille à maquereau. Tu as de longs poils comme elle la peau claire et une courte queue bouclée. Les méchants t'appellent « sale cochon ». Ils disent que si rien ne te dégoûte, tu dégoûtes tout le monde et que tu n'aimes que l'eau de vaisselle grasse. Mais ils te calomnient, qu'ils te débarbouillent et tu auras bonne mine. Tu te négliges par leur faute. Comme on fait ton lit, tu te couches et la malpropreté n'est que ta seconde nature.
Le cochon et les perles. Dès qu'on le lâche au pré, le cochon se met à manger et son groin ne quitte plus la terre. Il ne choisit pas l'herbe fine, il attaque la première venue et pousse au hasard devant lui, comme un soc ou comme une taupe aveugle, son nez infatigable. Il ne s'occupe que d'arrondir un ventre qui prend déjà la forme du saloir. Et jamais il n'a souci du temps qu'il fait. Qu'importe que ses soies aient failli s'allumer tout à l'heure au soleil de midi, et qu'importe maintenant que ce nuage lourd, gonflé de grêle, s'étale et crève sur le pré. La pie, il est vrai, d'un vol automatique se sauve. Les dindes se cachent dans la haie, et le poulain puéril s'abrite sous un chêne. Mais le cochon reste où il mange. Il ne perd pas une bouchée. Il ne remue pas, avec moins d'aise, la queue. Tout criblé de grêlons, c'est à peine s'il grogne. Encore leur sale perle.
Les moutons. Ils reviennent des chaumes, où depuis ce matin, ils paissaient, le nez à l'ombre de leur corps. Selon les signes d'un berger indolent, le chien nécessaire attaque la bande du côté qu'il faut. Elle tient toute la route, ondule d'un fossé à l'autre et déborde, ou, tassée, unie, moelleuse, piétine le sol à petits pas de vieille femme. Quand elle se met à courir, les pattes font le bruit des roseaux et criblent la poussière du chemin de nids d'abeilles. Ce mouton frisé, bien garni, saute comme un ballot jeté en l'air, et du cornet de son oreille s'échappent des pastilles. Cet autre a le vertige et heurte du genou sa tête mal vissée. Ils envahissent le village. On dirait que c'est aujourd'hui leur fête, et qu'avec pétulance, ils bêlent de joie par les rues. Mais ils ne s'arrêtent pas au village, et je les vois reparaître là-bas. Ils gagnent l'horizon. Par le coteau, ils montent, légers, vers le soleil. Ils s'en approchent et se couchent à distance. Des traînards prennent sur le ciel une dernière forme imprévue et rejoignent la troupe pelotonnée. Un flocon se détache encore et plane, mousse blanche, puis fumée, vapeur, puis rien. Il ne reste plus qu'une patte dehors. Elle s'allonge, elle s'effile comme une quenouille à l'infini. Les moutons frileux s'endorment autour du soleil, là, qui défait sa couronne, et pique, jusqu'à demain, ses rayons dans leur laine. Les moutons.
Mais...
Le chien de berger. Il n'y a pas de mais.
La chèvre. Personne ne lit la feuille du journal officiel affichée au mur de la mairie.
Si, la chèvre. Elle se dresse sur ses pattes de derrière, appuie celle de devant au bas de l'affiche, remue ses cornes et sa barbe, et agite la tête de droite et de gauche comme une vieille dame qui lit. Sa lecture finie, ce papier sentant bon la colle fraîche, la chèvre le mange. Tout ne se perd pas dans la commune.
Le bouc. Son odeur le précède. On ne le voit pas encore qu'elle est arrivée. Il s'avance en tête du troupeau, et les brebis le suivent, pêle-mêle,
dans un nuage de poussière. Il a des poils longs et secs qu'une raie partage sur le dos. Il est moins fier de sa barbe que de sa taille, parce que la chèvre aussi porte une barbe sous le menton. Quand ils passent, les uns se bouchent le nez, les autres aiment ce goût-là. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche. Ils marchent raides, les oreilles pointues et la queue courte. Et si les hommes l'ont chargé de leur péché, il n'en sait rien. Et il laisse, sérieux, tomber un chapelet de crottes. Alexandre est son nom, connu même des chiens. La journée finie, le soleil disparu, il rentre au village avec les moissonneurs et ses cornes, fléchissant de vieillesse, prennent peu à peu la courbe des faucilles. Les lapins. Dans une moitié de futaille, le noir et le gris, les pattes au chaud sous la fourrure, mangent comme des vaches. Ils ne font qu'un seul repas qui dure toute la journée. Si l'on tarde à leur jeter une herbe fraîche, ils rongent l'ancienne jusqu'à la racine, et la racine même occupe les dents. Or, il vient de leur tomber un pied de salade. Ensemble, le noir et le gris se mettent après. Nez à nez, ils s'évertuent, hochent la tête et les oreilles trottent. Quand il ne reste qu'une feuille, ils la prennent, chacun par un bout, et luttent de vitesse. Vous croiriez qu'il joue, s'il ne rit pas, et que, la feuille avalée, une caresse fraternelle unira les becs. Mais le gris se sent faiblir. Depuis hier, il a le gros ventre et une poche d'eau le ballonne. Vraiment, il se bourrait trop. Bien qu'une feuille de salade passe sans qu'on ait faim, il n'en peut plus. Il lâche la feuille et se couche à côté, sur ses crottes, avec des convulsions brèves. Le voilà rigide, les pattes écartées, comme pour une réclame d'armurier. On tue net, on tue loin. Un instant, le noir s'arrête de surprise. Assis en chandelier, le souffle doux, les lèvres jointes et l'œil cerclé de rose, il regarde. Il a l'air d'un sorcier qui pénètre un mystère. Ses deux oreilles droites marquent l'heure suprême. Puis elles se cassent. Et il achève la feuille de salade. Le lièvre. Philippe m'avait promis de m'en faire voir un au gîte. C'est difficile, et il faut l'œil des vieux chasseurs. Nous traversions une étole, les paysans disent une étoule, qu'un coteau protège contre le nord. Un lièvre se gîte le matin, à l'abri du vent qui souffle, et même si le vent tourne dans la journée, le lièvre reste à son gîte jusqu'à la nuit prochaine. En chasse, moi, je regarde le chien, les arbres, les alouettes, le ciel. Philippe regarde par terre. Il jette un coup d'œil dans chaque sillon, à la dévalée et à la montée. Une pierre, une motte l'attire. C'est peut-être un lièvre. Il va vérifier. Et cette fois, c'en est un. « Voulez-vous le tirer ?» me dit Philippe d'une voix contenue. Je me retourne. Philippe, arrêté, les yeux fixés au sol, sur un point, le fusil haut, se tient prêt. « Le voyez-vous » dit-il. « Où donc ? Vous ne voyez pas son œil qui remue ? Non, là, devant vous. Dans la raie ? Oui, mais pas dans la première, dans l'autre. Je ne vois rien. J'ai beau me frotter les yeux pleins de buée. » Philippe, pâle du coup qu'il a reçu au cœur en apercevant le lièvre, me répète. « Vous ne le voyez pas ? Vous ne le voyez donc pas ?» Et ses mains tremblent. Il a peur que le lièvre ne parte. « Montrez-le-moi, dis-je, avec votre fusil. « Tenez là, l'œil, son œil au bout du canon !» je ne vois rien. Épaulé, Philippe, mettez-le en joue. »
Je me place derrière Philippe. Et, même par la ligne de mire de son fusil, je ne trouve pas.
C'est énervant. Je vois quelque chose, mais ça ne peut pas être le lièvre. C'est une bosse de terre, jaune comme toutes les mottes de l'étole.
Je cherche l'œil. Il n'y a point d'œil. Je me retiens de dire à Philippe.
Tant pis, tirez.
Et le chien qui courait au loin est revenu près de nous. Comme il n'a pas le vent, il ne sent pas le lièvre, mais il peut s'élancer au hasard. Philippe le menace, à voix basse, de claques et de coups de pied s'il bouge. Philippe ne me parle plus. Il a fait l'impossible et il attend que je renonce.
Oh ! Cet œil noir, rond et gros comme une petite prune. Cet œil de lièvre terrorisé, où est-il ? Ah ! Je le vois ! À mon coup de fusil, le lièvre bondit hors du gîte, la tête fracassée.
Et c'est bien le lièvre que je voyais. Je l'avais vu presque tout de suite. J'ai de bons yeux. J'étais trompée par la pose du lièvre. Je le croyais en boule comme un jeune chien et je cherchais l'œil dans la boule. Mais le lièvre, ce gîte allongé, les pattes de devant jointes et les oreilles rabattues. Il ne fait un trou que pour placer son derrière, être le plus possible à ras de l'étole. Le derrière est ici et l'œil là, très loin. De là ma courte hésitation.
C'est lâche de tuer un lièvre au gîte, dis-je à Philippe. Nous aurions dû lui jeter une pierre, le faire sauver et le tirer tous deux à la course. Il ne pouvait pas nous échapper.
Ce sera pour une autre fois, dit Philippe.
C'est bien de me l'avoir montré, Philippe. Il n'y a pas beaucoup de chasseurs comme vous.
Je ne le ferai pas pour tout le monde, dit Philippe.
Le lézard. Fils spontané de la pierre fendue où je m'appuie, il me grimpe sur l'épaule. Il a cru que je continuais le mur parce que je reste immobile et que j'ai un paletot couleur de muraille. Ça flatte tout de même.
Le mur. Je ne sais quel frisson me passe sur le dos.
Le lézard.
C'est moi.
Le lézard vert. Prenez garde à la peinture.
La couleuvre.
De quel ventre est-elle tombée, cette colique ?
La belette.
Pauvre, mais propre, distinguée, elle passe et repasse par petits bonds sur la route et va, d'un fossé à l'autre, donner de trou en trou ses leçons au cachet.
Le hérisson.
Essuyez votre SVP.
Il faut me prendre comme je suis et ne pas trop serrer.
Le serpent.
1. Trop long.
2. La 10 millionième partie du quart du méridien terrestre.
Le ver.
En voilà un qui s'étire et qui s'allonge comme une belle nouille.
Les grenouilles. Par brusque détente, elles exercent leur ressort. Elles sautent de l'herbe comme de lourdes gouttes d'huile frite. Elles se posent, presse papier de bronze, sur les larges feuilles du nénuphar.
L'une se gorge d'air. On mettrait un sou par sa bouche dans la tirelire de son ventre.
Elle monte comme des soupirs de la vase. Immobile, elle semble, les gros yeux à fleur d'eau, les tumeurs de la mare plate. Assise en tailleur, stupéfiée, elle bâille au soleil couchant.
Puis, comme les camelots assourdissants des rues, elle crie les dernières nouvelles du jour. Il y aura réception chez elle ce soir. Les entendez-vous rincer leur verre ? Parfois, elle happe un insecte. Et d'autres ne s'occupent que d'amour. Et toutes, elles tentent le pêcheur à la ligne. Je casse sans difficulté une gaule. J'ai, piqué à mon paletot, une épingle que je recourbe en hameçon. La ficelle ne me manque pas, mais il me faudrait encore un brin de laine, un bout de n'importe quoi rouge. Je cherche sur moi, par terre, au ciel. Je ne trouve rien. Et je regarde mélancoliquement ma boutonnière fendue, toute prête, que, sans reproche, on ne se hâte guère d'orner du ruban rouge. Le crapaud. Né d'une pierre, il vit sous une pierre et s'y creusera un tombeau. Je le visite fréquemment et chaque fois que je lève sa pierre, j'ai peur de le retrouver et peur qu'il n'y soit plus. Il y est. Caché dans ce gîte sec, propre, étroit, bien à lui, il l'occupe pleinement, gonflé comme une bourse d'avare. Qu'une pluie le fasse sortir, il vient au-devant de moi. Quelques sauts lourds, et il me regarde de ses yeux rougis. Si le monde injuste le traite en lépreux, je ne crains pas de m'accroupir près de lui et d'approcher du sien mon visage d'homme. Puis je dompterai un reste de dégoût et je te caresserai de ma main, crapaud. On en avale dans la vie qui font plus mal au cœur. Pourtant, hier, j'ai manqué de tact. Il fermentait et suintait toutes ses verrues crevées. « Mon pauvre ami, lui dis-je, je ne veux pas te faire de peine, mais Dieu que tu es laid !» Il ouvrit sa bouche puérile et sans dents, à la laine chaude, et me répondit avec un léger accent anglais. « Et toi ?»